9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bienvenue dans cette arrivée cette semaine, une semaine particulièrement sombre puisqu'on a vu la France reconfinée et les attentats islamistes se répéter contre les Français en France ou à l'étranger. Sur le terrorisme, les experts sont tous à peu près d'accord, ils nous disent grosso modo la même chose, tous sauf un. Olivier Roy, l'auteur du Djihad et la mort, il est avec nous ce matin sur Europe 1. Il y aura également Muriel Fabre-Magnan pour parler du reconfinement. Elle a publié « L'institution de la liberté » il y a 2 ans, un livre prophétique à bien des égards. Et pour retrouver un peu le sourire et si possible prendre les choses du bon côté, on terminera l'émission avec le pianiste de jazz Yaron Herman. Dans le déclic créatif, il nous encourage à profiter du fait que l'on doit rester chez soi pour vivre la magie de notre créativité au quotidien. Il va nous expliquer comment, mais d'abord, Olivier Roy. Olivier Roy, bonjour. Vous êtes l'auteur du « Djihad et la mort » édité au Seuil en 2016. Et dans le 1 de cette semaine, le 1, c'est un hebdomadaire, vous expliquez dans une interview que l'on a tort de faire un lien automatique entre l'augmentation du fondamentalisme religieux et la violence terroriste. Pourquoi ?
La première raison, c'est que la plupart des terroristes n'ont pas de véritable passé religieux. Ils ont beaucoup plus facilement un passé de petits délinquants, ils se radicalisent en général en prison plutôt que dans une mosquée, et ils choisissent d'emblée un islam violent, c'est-à-dire ils choisissent d'emblée le djihadisme ou les terrorismes. Ils ne passent presque jamais par l'étape, disons, de ce qu'on appelle salafi, la pratique quotidienne extrêmement normative de la religion. En gros, si vous voulez, c'est pas la pratique religieuse qui les intéresse, c'est l'activisme religieux, c'est le passage à l'acte.
Le Tunisien de 21 ans qui a attaqué la basilique de Nice et tué 3 personnes répétait « Allahu Akbar » devant la police.
Oui, oui, parce que évidemment, les terroristes sont des musulmans, c'est-à-dire ils se réclament, c'est plus que se réclamer de l'islam. Pour eux, c'est un acte religieux, ils passent au paradis, c'est un espèce de suicide, si vous voulez, où on espère d'emblée avoir accès au paradis, mais qui n'est pas du tout un exercice de pratique religieuse, c'est-à-dire que ces gens-là ne sont pratiquement jamais associés à une mosquée, à une communauté, à des groupes prêcheurs, etc., etc. C'est la violence en soi qui les intéresse.
Olivier Roy, depuis Khaled Kalkal en 1995, jusqu'au Tchétchène, hein, qui a assassiné Samuel Paty, armé d'un couteau, vous dites que ce qu'ils ont tous en commun, c'est que tous meurent. Au fond, c'est au cœur de leur projet.
Oui, parce que d'un point de vue, si je voulais de l'efficacité stratégique ou militaire, c'est complètement absurde d'avoir des militants qui parfois sont très très bien formés, comme ceux du Bataclan, et qui ne servent qu'une fois. On le voit très bien avec Daesh, ils ont perdu tous leurs militants d'élite dans une action unique, hein, ce qui est complètement irrationnel d'un point de vue stratégique et militaire. Donc, la mort du terroriste est au cœur de l'action du terroriste. Son but n'est pas seulement de donner la mort, c'est de mourir. Et ça, c'est une constante. C'est presque les seuls mouvements terroristes qu'on connaisse pour qui la mort du terroriste est au centre de l'action. Et ça continue. Ce qui est très typique maintenant, c'est que toutes les attaques depuis 2016 se font avec des couteaux de cuisine ou des petites armes, etc. C'est-à-dire qu'ils essaient même pas de tuer le maximum de gens en utilisant des kalachnikovs, hein. Ils essaient tout simplement de se qualifier comme meurtriers, comme tueurs, et ensuite d'attendre que la police les tue.
Vous dites aussi que l'islamisme augmente en France, et avec lui le salafisme et le séparatisme. Vous en parliez d'ailleurs dans votre livre « La Sainte Ignorance ». Cela ne joue, d'après vous, aucun rôle dans la radicalisation violente de ceux de plus en plus nombreux qui nous attaquent et qui nous tuent.
Il n'y a pas de causalité, mais vous avez évidemment un parallélisme. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on voit dans l'islam, mais aussi dans les autres religions, un raidissement. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui se convertissent ou qui retrouvent une pratique religieuse le font dans des versions fondamentalistes de leur religion. La religion modérée, ça n'intéresse plus personne, c'est-à-dire un problème. Et ce raidissement religieux, il est observable partout, et il s'accompagne, évidemment, dans l'islam, d'une radicalisation politique, d'une radicalisation dans la violence. Et ça, c'est la violence qui fait la différence avec les autres religions. Mais dans cette quête d'une communauté entre soi où on respecterait strictement les normes religieuses et cette méfiance d'une laïcité de plus en plus athée, si je peux dire, là on retrouve toutes les religions.
Vous dites que ceux qui adhèrent aux religions aujourd'hui se radicalisent de plus en plus. C'est vrai aussi la religion protestante. Je crois que vous êtes protestant, Olivier Roy.
Oui, alors entendons-nous par radicalisation. Il ne s'agit pas d'une radicalisation politique. Il s'agit
ni violente,
d'une
ni violente.
Hein. Il s'agit d'une radicalisation dogmatique. C'est-à-dire, on va vers des formes entières, des formes intégralistes plus qu'intégristes du religieux. Et chez les protestants, on le voit, ce sont les évangéliques aujourd'hui hein, qui remuent les foules. La vieille église protestante de l'église réformée, bon, elle se marginalise de plus en plus. Et surtout, elle ne se renouvelle pas. On glisse vers l'auto-sécularisation. Donc les gens qui veulent un renouveau, ils sont appelés born again, hein, un engagement total dans le religieux. Chez les protestants, ils vont chez les évangéliques. Chez les catholiques, ils vont chez les charismatiques et ou les traditionalistes. Chez les musulmans, ils vont surtout chez les salafis, mais il y a aussi d'autres formes comme le soufisme, etc. Et chez les juifs, ils vont chez les orthodoxes et les ultra-orthodoxes. Ça, c'est un phénomène qui touche toutes les religions.
Et vous l'expliquez comment ?
Par la déculturation du religieux. C'est-à-dire que la société dominante est non seulement de plus en plus sécularisée, mais elle est déchristianisé pour ce qui est de l'Europe. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas de culture profane du religieux. Et les valeurs dominantes, les valeurs de l'individualisme désirant, si on peut dire, qui sont celles de mai 68, sont de plus en plus en contradiction avec les valeurs religieuses, comme le rappellent les papes, depuis 1968, hein, depuis l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI, qui condamnait la révolution sexuelle des années 60.
Alors revenons au terrorisme. Si je vous comprends bien, Olivier Roy, vous dites que même si l'islam se réformait, comme certains le souhaitent, s'il n'y avait plus un seul islamiste en France, plus une seule mosquée radicalisée, plus une seule école coranique fondamentaliste, plus aucune association entretenant des relations avec la mouvance islamiste, il pourrait y avoir quand même des attentats, d'après vous. Il y aurait des jeunes qui se radicaliseraient et qui commettraient des attentats.
Oui, enfin parce que ces jeunes cherchent la radicalisation. On le voit quand ils cherchent sur Internet. Hein. Ils vont pas chercher des différentes écoles théologiques sur le Coran. Ils vont chercher tout de suite le djihad, la violence, etc., etc. Donc ils continueront, quelle que soit l'offre religieuse dans la société française. Ils continueront. Alors est-ce qu'ils continueront à aller dans des grands récits héroïques, djihadiques, islamiques, etc. Ou est-ce qu'ils iront ailleurs? Bon, ça j'en sais rien. On n'en sait rien. En ce moment, on est une période où ce qui domine le marché de la radicalisation, c'est ces grands récits mis sur les écrans, on peut dire, par Al-Qaïda, par Daesh, etc. Ces grands récits apocalyptiques où l'individu fait son salut par sa propre destruction et la mort des autres, évidemment.
On fait une pause, Olivier Roy, on se retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Olivier Roy, l'auteur du « Djihad et la mort ». Vous dites qu'il ne faut pas faire un lien automatique entre l'augmentation du fondamentalisme religieux et la violence terroriste, mais ce n'est pas une raison pour ne pas combattre l'islamisme.
Oui, parce que l'islamisme, bon, le terme ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Disons les formes radicales de pratiques religieuses. Le salafisme, par exemple. Le salafisme pose un problème de société. Hein, c'est-à-dire où on vit entre soi, dans une communauté fermée sur elle-même, à l'intérieur d'une société dont on ne partage pas les valeurs. Bon. Simplement, il faut voir une chose, c'est comment recréer le lien. Et c'est certainement pas en imposant une laïcité normative et quasiment idéologique, suivie de sanctions éventuelles, qu'on arrivera à le faire. Il y a une demande de spiritualité, il y a une demande religieuse qui est dévoyée, hein, qui est très certainement dévoyée, mais il faut faire avec. Et ce n'est pas en asséchant le marché du religieux, si je peux dire, qu'on va modérer les croyants les plus radicaux. Il faut au contraire, j'allais dire, mettre sur le marché d'autres espaces de spiritualité, de religion. Il faut réapprivoiser le religieux au lieu de l'exclure. Voilà, c'est ça. Et ça, évidemment, un État laïque ne peut pas le faire. On le fait pas à partir de l'État. Donc c'est quelque chose qui doit se faire à partir de la société, à partir de la société civile, à partir des croyants, à partir de ceux qui se présentent comme des cadres religieux. C'est à eux, dans le fond, de prendre en main cette recherche d'une nouvelle spiritualité dans des sociétés comme les nôtres, qui sont extrêmement sécularisées.
Alors ces assassinats particulièrement atroces, hein, qui se multiplient contre les Français, Olivier Roy, comment faut-il les interpréter d'après vous? J'ai relu Le Djihad et la mort avant cet entretien. Vous expliquez que le terrorisme auquel nous avons affaire n'est pas une radicalisation violente de l'islam, mais une islamisation de la radicalité. Au fond, il a plus à voir pour vous avec le nihilisme que celui des terroristes russes de la fin du XIXe siècle qu'avec l'islam.
En ce qui concerne la psychologie de ceux qui font l'action, hein. Et effectivement, encore une fois, tous ces jeunes cherchent la mort, ce qui n'est pas rationnel, si vous voulez, quand on veut imposer une idéologie politique. Donc cette dimension, j'appelle ça nihiliste, parce que tout simplement, ils ne travaillent pas pour la mise en place d'une meilleure société, ce qui était quelque chose qu'on trouvait chez les anarchistes, qu'on trouvait chez les gauchistes et d'autres mouvements terroristes. Chez eux, dans le fond, on a l'impression qu'ils n'y croient pas. Qui ne croit pas à l'établissement d'une nouvelle société islamique. On le voit avec l'État islamique. L'État islamique a prétendu créer une société islamique dans un petit coin de Syrie et d'Irak, mais en fait, il a fait la guerre à tout le monde, avec cet objectif d'expansion mondiale qui, évidemment, ne peut pas marcher. Donc il en est mort, hein. Il s'est, d'une certaine manière, autodétruit. Et ces jeunes-là, quand ils vont quand ils rejoignent le mouvement, ils le font pas pour aller bâtir des hôpitaux, pour construire des écoles, pour faire de l'humanitaire, etc., etc. Ils le font pour devenir des kamikazes. Ils le font pour mourir. Donc c'est ça que j'appelle la dimension nihiliste. C'est pas qu'ils ne croient en rien. C'est pas qu'ils croient en rien. Ils espèrent bien aller au paradis, mais ils ne croient en rien sur Terre.
Au fond, c'est de la révolte pure. Hein. Ça n'est pas la construction d'un projet politique, ni même utopique. La violence n'est pas un moyen. Pour vous, elle est une fin.
Exactement. C'est ça qui caractérise le terrorisme d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est très difficile à combattre.
Et vous expliquez aussi que le djihadisme est au fond une sorte de mouvement de jeunes qui se construit en dehors des parents. C'est générationnel. Il n'y a pas de transmission. Ça ne vient pas des parents et ils ne le transmettront pas à leurs enfants puisqu'ils vont mourir.
Alors, on voit depuis 1995, hein, et au moins jusqu'à 2015, jusqu'au Bataclan, la grande majorité des terroristes sont des jeunes de seconde génération. Alors, c'est, si vous voulez, sur un point de vue chronologique, ça pose un problème, puisque au bout de 20 ans, à partir de 2015, on devrait avoir apparaître les troisièmes générations, et on les voit pas. C'est la génération de la rupture qui alimente les mouvements radicaux. C'est la génération qui a perdu, dans le fond, la transmission culturelle du religieux, qui n'est plus en phase avec l'islam des parents et des grands-parents, qui parfois ne peut même plus parler avec les grands-parents parce qu'ils n'ont plus de langue commune. Et ce sont eux qui se radicalisent. Il y a chez beaucoup de ces jeunes-là un paradigme qui est « je suis plus musulman que mon père ». C'est-à-dire qu'ils réinventent à partir de zéro une pure religion complètement coupée non seulement de la tradition mais de tout ancrage social. Ce qui évidemment est aussi un facteur de désocialisation et de nihilisme.
Dernière question, Olivier Roy, vous expliquiez dans le djihad et la mort que leur action est contre-productive, qu'elle ne sert à rien de concret, elle ne rend impossible toute négociation. D'un point de vue militaire, vous l'avez dit, ce n'est pas efficace, ils ne servent qu'une fois, ça n'est pas rationnel et ça ne met pas notre pays à genoux. Au contraire, il y a tout de même un risque grandissant, on l'a vu, avec nos identitaires qui menacent à leur tour des musulmans. L'un d'entre eux a été abattu par la police jeudi à Avignon après avoir menacé un commerçant d'origine arabe avec une arme de poing. Le risque, c'est de provoquer une guerre civile.
Non, pas une guerre civile. C'est des violences, oui, évidemment. Pour la guerre civile, il faut quand même qu'il y ait des populations entières dans le coup, ce qui n'est pas le cas. Alors je sais bien qu'il y en a qui essaient de lier les violences de banlieue avec l'islamisation, mais les violences de banlieue sont sur des logiques complètement différentes. C'est des logiques qu'on retrouve aux États-Unis, c'est ces conflits avec la police, les problèmes de relégation sociale, etc., etc. Mais ce ne sont pas eux qui ne rejoignent pas collectivement le mouvement de l'islamisation, pas du tout. Donc on est paradoxalement, en accroissant les tensions, ces attentats accroissent la demande d'unité, sur lesquelles d'ailleurs joue le président, par exemple. Bon, cette demande, ce souhait d'unité. D'autre part, je pense qu'on est une société qui n'est pas si fragmentée que ça, qu'on oublie toujours qu'il y a des classes montantes, des classes moyennes musulmanes en ascension sociale, qui sont dans des logiques religieuses complètement différentes de celles des radicaux, et qu'on est, sur le plan des mariages par exemple, dans des logiques beaucoup plus de plus grande mixité que la plupart de nos voisins européens, par exemple. Et je trouve que la France a une vision d'elle-même très pessimiste, beaucoup plus pessimiste que, à mon avis, la réalité sociologique ne le montrerait.
Merci Olivier Roy. Je rappelle que le Djihad et la mort est paru aux éditions du Seuil en 2016. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Muriel Fabre-Magnan, vous êtes professeur de droit à la Sorbonne. Vous avez écrit il y a 2 ans « L'institution de la liberté », un livre assez prophétique. La liberté est devenue la valeur suprême de notre société. Pourtant, on a l'impression que nos libertés se réduisent de plus en plus. Et nous voilà de nouveau assignés à résidence pour 1 mois, c'est le reconfinement. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Eh bien, disons que si j'avais écrit ce livre, c'est pour expliquer, peut-être pour le résumer de façon assez simple, que on ne naît pas libre, on le devient, et que en fait, il ne suffit pas de clamer qu'on est libre, il ne suffit pas de vouloir faire tout ce qu'on veut quand on veut, s'il n'y a pas un cadre commun qui garantit cette liberté, eh bien la liberté s'évanouit. Et je crois que c'est ce à quoi on est en train d'assister. Et il est encore temps de rattraper, mais il faut faire attention.
Vous disiez déjà dans ce livre, il y a 2 ans donc, que notre droit d'aller et venir, par exemple, se réduisait, un droit pourtant fondamental.
Exactement, parce qu'on voyait déjà les prémices dans les premières lois d'urgence, qui des lois qui sont censées être exceptionnelles et puis qui se pérennisent finalement. Et on voit bien que finalement, on est allé de fil en aiguille à restreindre de plus en plus ces libertés. Et le reconfinement montre bien aussi, on est en train de discuter sur le pourquoi du reconfinement et il semble bien qu'effectivement on n'ait plus le choix aujourd'hui, quoique je n'ai pas toutes les informations, mais il semble qu'on n'ait plus le choix. Mais la vraie question, c'est comment aurait-on pu se donner les moyens d'avoir le choix, c'est-à-dire ne pas casser notre système industriel, comme ça a été très bien dit par certains, ne pas se moquer du personnel hospitalier lorsqu'il nous disait au moment des grèves qu'il n'avait plus les moyens de faire face, au lieu de les traiter avec mépris toutes ces demandes comme étant irréalistes, irréalisables et idéalistes. Eh bien, si on s'était donné les moyens, on aurait eu aujourd'hui le choix peut-être d'autres solutions que cette solution quand même radicale, liberticide et honnêtement qui met tout le monde dans un état de sidération incroyable, surtout on va en parler peut-être de l'université, si vous voulez, ça me paraît assez paradigmatique que vous savez qu'il y a 2,7 millions d'étudiants en France, il y en a 43 000 dans mon université à Paris 1, et il y a un mépris considérable de ce qui se fait à l'université. On n'entend même pas de différence entre les cours en amphi, les cours en TD, les cours en Master 2. On a l'impression que c'est une zone grise où personne ne connaît rien et tout le monde se retrouve à la maison. C'est quand même une atteinte absolument excessive à nos libertés, absolument.
Vous voulez dire que les cours en TD, par exemple, se passent en petit comité, ça n'a rien à voir avec les
ça
cours en amphi.
Ça se passe en petit comité, les cours en Master 2 se passent en tout petit comité, l'université, les universitaires avaient pris tous les moyens, enfin les gens sont responsables, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire et où on nous infantilise, c'est pas vrai du tout. Les gens prennent tout à fait leurs responsabilités, on avait mis en place toute une série de choses, ça n'est pas possible d'assigner la jeunesse à résidence, ça n'est pas possible. Le coût, si vous voulez, le problème de notre société, c'est qu'on ne compte que ce qui se compte en argent, en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc évidemment, l'université qui est le lieu suprême du non-marchand, ça compte plus pour rien. La culture ne compte plus, l'instruction ne compte plus, que les librairies ferment. Expliquez-moi pourquoi
j'allais vous en parler, Muriel Fabre-Magnan. C'est bien la preuve qu'on ne compte pas seulement en espèces sonnantes et trébuchantes, puisque la liberté du commerce elle-même est entravée. Et on le voit bien avec les librairies. Personne ne comprend pourquoi les librairies. Mais surtout, cette liberté du commerce, ça paraît incroyable qu'on puisse comme ça y mettre fin.
Et c'est grave si vous voulez qu'on ne comprenne pas, je reprends vos mots, parce que c'est vrai qu'on entend souvent et on peut le comprendre, il faut faire confiance, nous sommes dans un état de nécessité, on ne peut plus faire autrement, mais je vous dis d'abord il faut remettre en amont, est-ce qu'on s'est vraiment donné les moyens de faire autrement? Et je ne crois pas, on aurait dû avoir les moyens de faire autrement. Et en plus, il faut qu'on comprenne, les gens ne comprennent pas l'importance et le coût de l'atteinte à des principes. C'est pas uniquement par idéalisme l'atteinte à des principes, ça a un coût, le coût psychologique, on en parle vaguement, mais il est absolument énorme. Et si vous voulez, ça n'est pas de l'idéalisme de penser qu'il faut s'accrocher à nos principes. C'est au contraire très réalisme. C'est le réalisme qui suppose de voir qu'il n'y a pas de liberté si le droit ne garantit pas un minimum cette liberté, s'il n'y a pas un contrôle, notamment par les juridictions de notre liberté. Il y a un coût pour la légitimité de l'État, il y a un coût sur la foi qu'on a dans notre état de droit protecteur. Et c'est très grave de jouer avec ces choses-là, c'est-à-dire de profiter du fait que on n'a pas le choix et qu'on va être obligé d'obéir.
Mais Muriel Fabre-Magnan, dans votre livre paru il y a 2 ans, hein, j'insiste, l'institution de la liberté, vous disiez déjà qu'au nom de la santé publique, l'État s'autorise de plus en plus de choses. Ça n'a donc pas commencé avec l'épidémie de Covid.
C'est vrai. Et ça, c'est pour ça que j'ai essayé dans le livre, si vous voulez, de retrouver un peu les effets pervers. C'est-à-dire, on sait tous que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et au nom de bonnes intentions, par exemple, obtenir plus de liberté de choix, plus de pluralisme dans les choix de vie. À nouveau, le livre est résolument du côté de la liberté des modernes. Mais c'est d'un leurre de penser que même cette liberté négative qui consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, même celle-là, elle a besoin d'un cadre protecteur. Et si vous demandez à l'État non seulement de cautionner tous vos choix de vie les plus particuliers, d'abord on y reviendra peut-être, mais c'est pas comme ça qu'on fait société, et en plus, vous ouvrez grand la porte à l'État pour que l'État vienne contrôler. Si vous lui demandez des droits très personnels qui relèvent de l'intimité de la vie privée, eh bien l'État va venir contrôler de plus en plus la vie privée. Regardez, aujourd'hui, ça devient, je trouve, insupportable.
Ou rendre obligatoire la vaccination pour les enfants, par exemple, parce que, effectivement, au nom d'un certain nombre de choix de vie, certains voudraient ne plus vacciner leurs enfants.
C'est ça, et avec toujours le chantage de nous dire « Ah, mais vous êtes contre la science, vous êtes contre les vaccins, mais il ne faut pas gouverner par la peur, parce que si on avait plus de confiance et s'il y avait plus de légitimité de l'État, on l'accepterait aussi beaucoup plus facilement. » Donc il faut cesser de gouverner par la peur, de gouverner en nous infantilisant, et il faut nous redonner les libertés qu'on est en train de nous prendre, mais de façon considérable. On pourra peut-être en reparler.
On va faire une pause et on en reparle, effectivement.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Nous sommes toujours avec Muriel Fabre-Magnan, qui est professeur de droit à la Sorbonne, qui est l'auteur de l'Institution de la liberté. La laïcité, on passe maintenant à la sécurité, parce que la sécurité aussi est une des raisons pour lesquelles l'État peut réduire nos libertés. La laïcité est en train de devenir un ensemble de valeurs républicaines que l'on enseigne à l'école et auxquelles il convient d'adhérer. Sinon, on est de mauvais citoyens. Jusqu'à présent, les Français avaient la liberté de choisir leurs valeurs. Ils pouvaient être monarchistes ou anarchistes, ils pouvaient être croyants ou athées, du moment qu'ils respectaient la loi. Aujourd'hui, on trie entre les bons et les mauvais républicains.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites et je crois qu'on confond beaucoup le vocabulaire. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui beaucoup de cette question des valeurs. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la assez détestable loi sur les libertés universitaires qui est en train d'être votée au Sénat, un amendement a été adopté il y a quelques jours pour restreindre ou conditionner l'exercice des libertés académiques au respect des valeurs de la République. C'est une disposition tout à fait effrayante parce que les libertés académiques font partie du respect des valeurs de la République. On est en train d'opposer deux choses. Parce qu'on ne comprend plus le sens des mots. La notion de valeur n'est pas une notion du tout pour le juriste. Donc déjà, l'introduire dans un texte juridique, c'est quelque chose de très flou. Ce qui est certain, c'est qu'on doit respecter les principes de la République. Mais ça n'est pas du tout la même chose. Les principes de la République, c'est par exemple ce qui est indiqué dans la Constitution, c'est-à-dire notamment, effectivement, vous avez raison, le principe de laïcité ou encore la liberté, l'égalité, etc. Mais si vous dites qu'on va venir contrôler les valeurs qu'on a, les valeurs, ça relève de la liberté d'expression et même encore plus de la liberté de penser. J'ai le droit d'être monarchiste, j'ai le droit d'être anarchiste, j'ai le droit de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu dès lors que je respecte les principes de la République. Ça n'est pas du tout la même chose. Je peux penser, je ne sais pas, que les femmes sont beaucoup plus intelligentes et courageuses que les hommes, ou à l'inverse, qu'elles sont inférieures aux hommes, mais je dois respecter le principe de l'égalité homme-femme. Donc on confond, le mot de valeur introduit quelque chose de très dangereux, qui est de confondre le fort interne, c'est-à-dire la liberté de penser, avec ce qu'on doit respecter dans l'espace public. Et ça, c'est une atteinte à nos libertés, parce que la liberté de penser, elle est absolue. Et si on n'apprend pas justement aux gens qu'il y a une différence entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Dans le fort de la pensée, on peut penser les pires choses. Mais ce qu'il faut éviter, c'est le passage à l'acte. Mais si on rompt la frontière entre la pensée et qu'on veut gouverner les esprits, on entre dans quelque chose, à mon avis, de très dangereux. Et à nouveau, je crois vraiment que l'islam, dont on parle beaucoup en ce moment, est absolument compatible avec les principes de la République. Donc, je vous dis, on peut avoir une croyance dans un Dieu et le respecter dès lors qu'on respecte les principes de la République, pas les valeurs, les principes de l'égalité homme-femme, de la laïcité, etc. Et on est en train, une fois de plus, de mettre tout dans le même sac. Bon, je vous dis, à l'université, à Paris 1, il y a une très grande diversité culturelle d'origine. Moi, je ne vois que des étudiants qui veulent s'intégrer dans les principes de la République, mais il ne faut pas leur demander de renoncer à leurs valeurs, au sens des valeurs internes, et qui, au contraire, peuvent être un très bon guide dans une moralité publique, par exemple.
Muriel Fabre-Magnan, on parle beaucoup de la liberté d'expression, on la proclame, mais dans votre livre, vous vous inquiétiez déjà du fait qu'elle se réduisait, cette liberté d'expression. Elle se réduit beaucoup en France.
Elle se réduit beaucoup, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je pense que l'un des grands malentendus à propos de ces affaires de laïcité, c'est que beaucoup de personnes ont l'impression d'un deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'on aurait le droit de se moquer de certains, mais que, par exemple, on ne pourrait pas faire de caricature sur certaines choses qui sont tabous chez nous. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a une atteinte à la liberté, on l'a beaucoup vu, certaines expressions à l'université, on annule des conférences, etc. Donc, je peux comprendre le sentiment de grande injustice d'un deux poids, deux mesures. Alors, je ne vais pas prendre des exemples, parce que je vous dis, on est devenu un monde, justement, tellement sensibilisé, ou tout exemple que je prendrais, on dira bah, finalement c'est parce qu'elle pense ceci ou cela. Mais disons, prenons un exemple où je suis absolument insoupçonnable par mon féminisme notoire. Supposons une caricature qui montre des femmes dans une situation de grande humiliation, etc. On criera au scandale. Mais pourtant, ça devrait relever aussi de la liberté d'expression. Donc sinon, on ne peut pas, vous comprenez, si on ne croit pas nous-mêmes à nos principes et si on ne les applique pas nous-mêmes, regardez comment déjà au moment de Charlie, on nous demandait « êtes-vous Charlie ?» et puis dans un même mouvement, on disait « je suis Charlie » et il faut repérer les gens qui ne sont pas Charlie. Non, être Charlie, c'est accepter qu'on soit Charlie, qu'on ne soit pas Charlie. Mais en revanche, je crois beaucoup, et ça ne vous étonnera pas vu mon attachement à l'université, mais je crois à l'enseignement, je crois à l'éducation. C'est des questions extrêmement compliquées et je vous dis, on attendrait d'un gouvernement qu'il tienne le « en même temps » qu'il avait promis, c'est-à-dire il faut en même temps sortir du déni, affronter toutes les questions, y compris celles de l'immigration, celles de l'islam politique, et bien sûr, mais en même temps, il faut cesser d'essentialiser les musulmans, il faut cesser de les renvoyer aux textes du Coran, dont ils ne sont pas responsables et dont ils n'ont pas à répondre. Donc je crois à l'éducation, je crois au fait d'inculquer la justice, qu'il n'y ait pas un deux poids deux mesures. On enseigne toujours à nos étudiants, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui les blesse, de remplacer par un autre mot, pour voir, essayer de sortir justement, on est tous des écorchés vifs, surtout dans ce monde violent où il y a toujours deux camps. Mais essayons d'oublier pour l'instant le passé, d'agir, c'est absolument urgent, et on pourrait se retrouver sur ces questions-là. Donc je vous dis, les valeurs sont personnelles, les convictions sont personnelles, on peut honorer les dieux que l'on veut, ou être anarchiste, ou royaliste, ou ce que vous voulez, mais on respecte quelques principes de la République. Mais qu'on ne demande pas aux gens de faire allégeance à des valeurs, ça fait de la peine de voir certains vouloir aujourd'hui venir à tout prix démontrer qu'ils sont de bons Français. Bon, c'est très touchant en même temps, c'est vrai qu'on est dans un instant d'émotion, mais ne demandons pas aux gens de renier leurs valeurs. Et vous voyez, on plaide d'un côté sur une liberté dans l'espace public de faire ce qu'on veut quand on veut, et dans le domaine interne, on serait obligé de penser tous la même chose. Vous voyez bien ce que ça a de caricatural. Donc, essayons de nous unir, d'oublier nos divergences et de se réconcilier sur en même temps plus de déni et en même temps la France est ouverte aux musulmans et l'islam est compatible avec les principes de la République. Et je vois ça tous les jours à l'université.
Merci Muriel Fabre-Magnan. Je rappelle que l'institution de la liberté est parue aux presses universitaires de France.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous voilà donc confinés pour un mois et si l'on veut prendre les choses du bon côté, on peut décider d'en profiter pour déployer toute sa créativité. Bonjour Yaron Herman, vous êtes un célèbre pianiste de jazz et vous avez eu la bonne idée d'écrire le déclic créatif qui paraît aujourd'hui chez Fayard. Vous l'avez fait exprès, vous l'avez écrit pendant le confinement et vous le publiez maintenant au moment de la deuxième vague pour que les gens coincés chez eux s'en inspirent.
Écoutez, je pense que c'est un peu ça. Lors du premier confinement, je me suis retrouvé sans concert, sans tournée. Je me suis dit, OK, comment je peux faire pour justement utiliser ma créativité autrement et en plus transmettre cette joie de créer pour ceux et celles qui en ont aussi besoin.
Et alors, il faut dire qu'au départ, vous vous destiniez à une carrière de basketteur. Et puis, à 16 ans, vous êtes blessé et vous êtes reconverti. Vous êtes mis au piano. Alors, ce livre, ça n'est pas pour devenir un virtuose, comme vous l'êtes devenu, mais c'est pour libérer la créativité qui dort, au fond, en chacun de nous. Et vous dites que la contrainte, c'est un excellent moyen. Et vous donnez un excellent exemple. Vous étiez passager d'un vol de 12 heures pour Tokyo. Vous alliez vous endormir et puis pas moyen de dormir. La climatisation juste au-dessus de vous faisait un bruit répété, un bruit insupportable. Alors ?
Alors, évidemment, c'est très énervant au début, mais au bout de quelques heures de vol, ce bruit a commencé à devenir musical. C'était presque un rythme à trois temps. C'était un bruit tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Donc, à un moment, mon imaginaire est parti et je commençais à imaginer une espèce de motif répété à la main gauche, comme ça, que je pourrais transposer au piano. Et c'est parti et c'est devenu un morceau.
Là, on entend la clim et puis un peu de Bach aussi, non ?
Exactement. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, OK, ça, c'est une bonne idée, mais ça, tout seul, ça ne peut pas marcher. Et sur mon piano, j'avais une partition de Bach. Et ce petit mariage improbable a produit cet enfant qui est devenu le morceau.
Au fond, si l'on veut apprendre quelque chose de nouveau quand on est adulte ou aborder une nouvelle discipline, donc déployer sa créativité, pas forcément dans le champ qui est le nôtre, hein, il faut prendre exemple, dites-vous, sur un bébé en train d'apprendre à marcher.
Oui, pour moi, les bébés ont tout compris. Ils ont une attitude assez incroyable des champions. C'est-à-dire qu'ils commencent à marcher, ils font des petits pas maladroits, ils tombent, ils se relèvent, ils ne se posent pas de questions. Quand on commence quelque chose de nouveau, tout de suite, on se dit « Ah non, ce n'est pas pour nous, en fait, on n'est pas fait pour ça ».
Ils n'attendent pas qu'on leur explique. À aucun moment, ils ne se disent « Ça fait 10 fois que je tombe, ça fait 3 semaines que j'essaie, que je n'y arrive pas, je crois que je ne suis pas fait pour marcher ». Ça, non, jamais. Hein.
Non, jamais. Ils n'attendent pas non plus de faire des hautes études de marche pour être certifiés pour pouvoir le faire. Ils le font, c'est tout.
Et ils ne se comparent pas aux adultes. C'est très important pour vous. Il ne faut pas se comparer.
Je pense que c'est un peu inévitable de se comparer et ce n'est pas forcément mauvais en soi, sauf si ça appuie sur nos insécurités au point où on se sent tellement nul qu'on n'a pas envie de se lancer.
Oui, ben ça pourrait être le cas du bébé qui se dit, il regarde les adultes, il dit « Oh là là, je suis vraiment trop mauvais par rapport à eux, j'arrête ».
Ouais, mais il a cette intelligence instinctive de juste remplir son devoir.
La solitude, vous dites, c'est très important et c'est important en ce qui nous concerne puisqu'on va se retrouver pour un certain nombre d'entre nous très seuls pendant ce confinement.
Oui, la solitude, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, particulièrement maintenant, mais ça peut être aussi une opportunité d'enfin prendre ce temps pour découvrir et explorer tout seul. Moi, j'aime bien l'idée d'expérimenter et faire des échecs en privé. Ce n'est pas des échecs publics. On est chez soi, on peut faire n'importe quoi, on peut essayer.
Et vous dites d'ailleurs, vous donnez un très bon conseil, c'est original, il faut établir une liste pour échouer. Normalement, on fait des listes que ce qu'on veut réussir.
Je trouve ça beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que quand on sait où sont les pièges, on est plus à même de les éviter. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai une liste et je dis, OK, qu'est-ce qui pourrait faire que je n'y arrive pas à accomplir ce que je me suis dit que j'allais faire. Par exemple, regarder plus les réseaux sociaux, mater les infos H24.
Regarder Netflix, je crois que vous la mettez aussi
Netflix,
dans votre liste.
Évidemment, tout ce divertissement qui nous empêche de se nourrir, en fait. On est en train de se divertir, ce qui est une très bonne chose de temps en temps, évidemment. Mais il y a toute une autre partie qu'il faut se nourrir.
Les petits rituels aussi, vous dites que c'est important pour déployer sa créativité. Ça paraît un peu nunuche hein, quand on dit ça, déployer sa créativité. Mais au fond, vous expliquez bien de quoi il s'agit. Et oui. Les rituels ont leur importance.
Absolument. Tout le sujet, un sujet un peu difficile. Dès qu'on parle de créativité, les gens ont déjà l'impression d'avoir tout entendu. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses encore à explorer et à dire sur ces sujets qui n'ont pas un peu déjà vu. Et notamment sur l'idée de se poser la question tout simplement. Quelles sont les choses qui facilitent notre créativité, qui nous donnent accès à notre potentiel? Ça peut être, je ne sais pas quoi, faire des exercices un peu le matin, ça peut être s'entourer des livres, ça peut être ouvrir la fenêtre, regarder l'horizon. Pour chacun, il y a des moments aussi dans la journée aussi où on est plus à même de créer, on est plus, peut-être plus productif.
Alors, en ce moment, il y a beaucoup la question de la surface. Beaucoup se plaignent d'avoir une surface réduite et même d'être plusieurs dans cette surface. Vous dites, attention, ça peut être aussi un moteur de créativité. Après tout, Einstein travaillait dans sa cuisine à Berne et Beethoven a composé dans des conditions fort peu enviables.
C'est vrai. Après, c'était évidemment des gens exceptionnels qui étaient habités par un feu créatif très, très, très puissant. Évidemment, c'est contraignant et ce n'est pas idéal, mais je pense qu'on peut trouver aussi un horizon intérieur, justement, dans ces conditions-là.
L'épidémie de Covid risque de nous obliger à nous réinventer, à improviser. Après tout, c'est ce que font les gouvernements, c'est ce que font les chercheurs, c'est ce que font les soignants. Nous, chacun d'entre nous, on peut faire pareil.
On doit faire pareil pour notre bien-être, en fait. C'est vraiment pas une question de créer des chefs-d'œuvre dans un premier temps, mais trouver un équilibre, trouver quelque chose qui nous donne envie de se réveiller le matin et de jouer, tout simplement.
Le déclic créatif vient de paraître chez Fayard. C'est signé Yaron Herman. C'est au fond sa méthode.
Europe 1.
L'émission se termine, on se retrouve demain à 9h, il sera question de la présidentielle américaine bien sûr, avec Guy Sorman qui a la double nationalité et qui a beaucoup écrit sur l'Amérique en général et sur la révolution conservatrice américaine en particulier. On parlera également d'Erdogan, le président de la Turquie qui organise le boycott des produits français, qui est en première ligne hein, parmi les pays musulmans qui s'opposent aujourd'hui à la France. On en parlera avec Jean-François Pérouse qui a écrit sa biographie et qui vit à Istanbul. Et côté évasion, je recevrai la chanteuse Barbara Carlotti qui a eu la bonne idée pour ce confinement de faire un disque sur la Corse avec des chansons des années 60. Et voilà qui entre dans le studio, Olivier Duhamel. Bonjour Olivier.
Bonjour Frédéric.
Qu'est-ce qui se passe après le flash?
Qu'est-ce qui se passe mardi? Il y a une élection aux États-Unis. Ça va faire le gros, c'est une quasi spéciale, même si au début on va quand même évoquer la situation française. Également vu les États-Unis avec notre envoyé spécial Xavier Yvon qui s'est spécialement levé à genre 3-4 heures du matin pour nous. Et François Durper, un des meilleurs spécialistes français en studio.
Eh bien bonne émission.